Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, ce soir, podcast, streaming et je remets le son. La place va finir par manquer dans le cimetière de la révolution numérique. Après Caramel, après MySpace, après AltaVista, nouvelles funérailles, RIP, iTunes, la bibliothèque sonore d'Apple, les sites de streaming comme Deezer, Spotify, Tidal ont ringardisé le téléchargement payant. La firme américaine vient de décider de fermer la boutique pour mieux développer ses offres alternatives en matière de musique et de podcast. C'est la révolution du son et nul ne sait encore où elle nous mènera. Un peu comme pour les trottinettes électriques, l'offre est pléthorique. Acast, Elson, Magellan, Binge Audio, Cybelle, pour ne citer que quelques-unes des plateformes de podcast, viennent titiller un paysage aujourd'hui dominé par les grands groupes radiophoniques, au premier rang desquels Radio France. Cette ruée vers l'audio est à la fois pleine de promesses et d'incertitudes. Difficile de rentabiliser ces nouvelles offres, que ce soit par la voie de l'abonnement ou par celle de la publicité. Sachant qu'au-delà des coûts de diffusion, il y a les coûts de production. Comment rémunérer les auteurs et comment partager ces coûts quand une partie des contenus existants est proposée gratuitement par de nouveaux acteurs sans contrepartie. Alors podcast, streaming et je remets le son, c'est la question du soir en compagnie de quatre invités. Yann Thébault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général d'Acast France, qui est une plateforme indépendante et leader mondial du podcast. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site internet d'Acast. Vous êtes l'ancien directeur général de Spotify France, qui est un des principaux, si ce n'est le principal site de streaming au monde. Pour discuter avec vous, Karine Fillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice d'Elson. Elson.
On dit Elson ou Elson, c'est comme vous voulez.
Elson.fr, plateforme équitable d'écoute et de recommandation de podcasts. Là aussi, hein, je lis ce qui est écrit sur votre site. Vous animez par ailleurs des ateliers radio et podcasts, qui a donné naissance à un autre
projet, enfin qui est attenant à Elson, qui est tac-tac-tac, pour accompagner les podcasteurs.
Et puis vous êtes une ancienne de Radio France, comme Mathieu Gallet, par exemple, sauf que vous êtes resté un petit peu plus longtemps. Je dis comme Mathieu Gallet parce que lui aussi s'est lancé dans le podcast. On aura l'occasion d'en reparler. Thierry Vaugirac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint à CB News, qui est un magazine qui est notamment consacré aux médias. Et puis notre quatrième invité, Laurent Frisch, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du numérique et de la production à Radio France. Vous êtes passé par Orange et par France Télévisions. Alors, on va beaucoup parler de podcast ce soir, mais je voudrais quand même qu'on commence par iTunes, par le téléchargement de musique et par cet objet lancé il y a presque 20 ans, c'était le 23 octobre 2001, c'était présenté par Steve Jobs, c'était l'iPod. Est-ce que vous en avez tous eu un et est-ce que vous en servez toujours, Yann Thébault?
J'en ai eu un, effectivement. En revanche, je ne m'en sers plus depuis bien longtemps.
C'est aussi votre cas, Laurent Frisch?
Ah, moi, j'ai eu le premier iPhone, mais pas d'iPod.
Pas d'iPod? Non. Tiens, comment ça se fait?
Non, je sais pas. J'écoutais encore des CD à l'époque.
Karine Fillot?
Moi, j'ai eu un iPod, mais c'était pour télécharger des podcasts.
Et Thierry Vaugirac?
Moi, j'ai jamais été Apple.
Bon, bah, alors on a finalement 50%, alors que c'est vrai que c'est devenu un petit peu, non pas ringard, mais enfin en tout cas dépassé par ces sites de streaming que sont Deezer, que sont Spotify, que sont Tidal, par exemple, qui est un site américain. Comment est-ce qu'on peut expliquer, d'après vous, qu'en aussi peu de temps, ce qui apparaissait comme vraiment la révolution de la musique, à savoir le téléchargement, soit devenu dépassé assez largement, quand on regarde les chiffres, par le streaming? Yann Thébault.
C'est tout simplement par rapport aux usages. Aujourd'hui, l'écoute en streaming correspond à des besoins de mobilité. Et c'est vrai que c'est grâce à ces usages que l'offre a pu s'installer. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le streaming est si représenté sur le marché et si utilisé.
Mais le streaming, la mobilité en tout cas, elle était aussi permise par le téléchargement.
Oui, mais de manière moins pratique, j'ai envie de dire, puisque on peut maintenant écouter tout un catalogue de musique à disposition de manière plus exhaustive qu'avec le téléchargement, où on n'avait pas tous les titres à disposition. Là, on peut télécharger des dizaines et des dizaines et des centaines de titres à volonté.
Ce qui change beaucoup, en fait, Laurent Frisch aussi, c'est que du coup, on paye pour un service davantage que pour des fichiers. Mais avec ce service, on a un accès quasi illimité.
C'est cela, Hervé. Quand vous téléchargez, vous devez programmer à l'avance ce que vous voulez. C'est comme l'acte d'achat d'un CD. Vous l'achetez, vous savez, vous allez l'écouter, le réécouter, le réécouter, le réécouter encore. Mais la promesse du streaming, c'est pas ça. La promesse du streaming, c'est une abondance, une exhaustivité de catalogue et puis une immédiateté dans l'accès à ce que vous voulez, au moment où vous le voulez.
Est-ce que ça rapproche d'ailleurs le milieu du son aujourd'hui de révolutions qu'ont pu connaître, par exemple, l'image, la vidéo, je pense évidemment à Netflix, Thierry Vaugiac, c'est-à-dire là aussi, on est moins dans l'achat, par exemple, de DVD, je ne sais pas d'ailleurs où en sont les chiffres, mais on va s'abonner à des plateformes qui permettent d'avoir accès à des films, à des séries, à des documentaires. Non, vous ne savez pas ?
Non.
Ah bah alors vous pouvez le dire, hein. qui saurait répondre à cette question ? Non, personne autour de la table. Si, Laurent Frisch.
La vidéo, la plateforme de vidéo en streaming et par abonnement sont un énorme succès. Elles s'appellent Netflix, Amazon, OCS aussi en France et sont en compétition maintenant avec les plateformes issues des télévisions comme France.tv, MyTF1, MyCanal, Sisplay et d'autres. C'est un énorme succès parce que c'est une promesse d'exclusivité, d'originalité éditoriale, des séries ou des films qu'on ne trouvait pas ailleurs, bah vous devez aller les chercher sur ces plateformes. Si vraiment vous avez envie de voir Game of Thrones, bah vous savez où vous abonnez, sur quelle plateforme vous abonnez, etc. etc. C'est ça la clé du succès de ces plateformes. L'exclusivité dans les programmes.
On va voir justement si ça peut inspirer éventuellement les plateformes de podcast. Karine Fillot et ensuite Yann Thébault.
Oui, en fait, ce que créent aussi ces plateformes de consommation, finalement, il faut en avoir pour son forfait. Donc, elles créent aussi en fait cette surabondance d'offres qui ferait qu'en fait, on crée le besoin aussi avec cette offre-là. Netflix, en fait, quand on regarde aussi dans les usages, à la fin, on lance Netflix peut-être comme on lançait la télé avant et on se laisse finalement porter par cette surabondance de choix en fait qui est là, qui est disponible, donc on crée aussi cette relation qui est un petit peu bizarre au contenu, qui fait qu'on n'est plus uniquement dans un contenu qui est choisi. Ça peut être le cas de certaines séries, effectivement on va consommer telle et telle série à un endroit précis, mais parfois on se laisse aussi tout bêtement porter en fait par l'offre qui est là.
Yann Thébault.
Et puis c'est aussi une vague de fond. Aujourd'hui, on s'éloigne de la possession, de la notion de propriété. On a beaucoup plus de choses à disposition parce qu'on peut les louer tout simplement. C'est valable pour plein de biens de consommation et la culture en est un.
Laurent Frisch et ensuite Karine Fillot. Non, je croyais que vous vouliez réagir, Laurent Frisch, vous me faisiez un signe. Alors, Karine Fillot.
Par rapport à cette idée de propriété, en fait, ce que créent aussi des plateformes comme ça, c'est qu'elles sont sorties d'un seul canal. Par exemple, si on reparle de l'iPod, on était en fait sur un seul support qui était l'iPod, justement. Il n'y avait pas de synchronisation parfaite avec un support que peut être l'ordinateur ou avec la télé. Et une expérience, quand on parle d'expérience à la Netflix ou même d'expérience à la Spotify, c'est en fait cette synchronisation parfaite d'un même contenu et qu'on peut suivre, du coup, en flux continu. C'est moins le cas pour la musique. Encore que, on peut écouter un album, mettre en pause, le reprendre. Mais pour ce qui est d'une série télé, en fait, c'est aussi cette. On parlait des usages au début, mais c'est cette question de continuité dans l'expérience aussi d'écoute ou de visionnage.
Et pour illustrer, d'ailleurs, on avait monté un partenariat à l'époque chez Spotify avec Uber, où on pouvait lancer la musique qu'on allait qui allait nous accompagner pendant la soirée, commencer à l'écouter chez soi et reprendre l'écoute dans le Uber, par exemple. Donc cette notion de continuité et d'accessibilité sur tous les devices, tous les appareils possibles.
Ce qui est spectaculaire, c'est que maintenant on regarde Netflix comme on regardait une chaîne de télé. On va sur Netflix. Pour, parfois, comme le disait Karine Fillot, sans savoir à l'avance ce qu'on va y trouver et ce qu'on va regarder. Peut-être d'ailleurs que maintenant on lance Spotify et on écoute Spotify comme on écoute une radio musicale.
Est-ce qu'on peut dire quand même, en tout cas Thierry Vaugiac, que ce qui s'est passé justement avec Netflix, ça peut être une source d'inspiration pour ce qui se passe dans ce monde du son et particulièrement avec le podcast aujourd'hui?
Oui, absolument, parce qu'on a, vous parliez du phénomène d'exclusivité et c'est ça que recherchent les différentes plateformes. C'est pas forcément, il y en a pléthore. Il y en a pléthore et des très différentes. Et la façon de se différencier, ce sera de proposer effectivement des choses que les autres n'auront pas. Donc il y a la même approche au final.
Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là, même pas du tout. Quand on regarde justement, alors ce que sont les grandes plateformes de streaming, hein, je les cite à nouveau, puis j'essaie toujours d'en citer plusieurs pour que ça fasse pas de la publicité, mais Deezer qui est française, Spotify qui est suédoise, hein, je crois, qui est leader mondial. Sont des plateformes qui sont essentiellement consacrées à la musique, mais qui de plus en plus proposent des podcasts sur Deezer, sur Spotify. On peut retrouver, je pense, la quasi-totalité des podcasts qui sont proposés par Radio France aujourd'hui. Est-ce que vous, qui en avez été le directeur général, Yann Thébault, on peut dire que ces plateformes-là, si elles ne proposaient pas de podcasts, elles seraient handicapées par rapport à la concurrence? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire autrement quand on est un site de streaming musical que de ne pas proposer de podcast?
Oui, je pense qu'on peut faire autrement. On peut se concentrer sur son cœur de métier, à savoir proposer de la musique. Maintenant, c'est un plus qu'on offre à ses abonnés d'avoir la possibilité d'écouter des podcasts. Pour répondre et rebondir à votre commentaire, on ne retrouve pas la totalité des contenus sur Spotify aujourd'hui, ni sur Deezer d'ailleurs, puisque on retrouve en revanche la totalité des contenus disponibles sur Apple Podcasts, qui fait référence en la matière. Les plateformes de diffusion comme celle-ci n'ont pas forcément tous les contenus disponibles.
Laurent Frisch, vous confirmez, en tout cas s'agissant de Radio France, on ne peut pas tout trouver sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, vous qui...
Ah oui, je vous confirme Hervé, le seul endroit où retrouver l'intégralité du grain à moudre, c'est sur l'application Radio France et sur le site de France Culture, et uniquement là. Radio France a mis en ligne à peu près 1,5 million d'épisodes, donc de podcasts, à écouter, ça fait beaucoup d'écoutes possibles. Vous en retrouvez tout au plus 100 000 sur une plateforme prise au hasard, tout au plus.
Mais alors moi je suis allé par exemple aujourd'hui, je suis allé voir sur Google Podcast. Alors il y a quelques épisodes du Grain à Moudre, mais qui datent un petit peu. Les derniers qui sont proposés ont un peu plus d'un mois. Je suis allé sur Magellan, donc qui est cette nouvelle plateforme qui est proposée par, qui a été lancée la semaine dernière par l'ancien PDG de Radio France, Mathieu Gallet. On trouve les derniers épisodes du Grain à Moudre sur Acast. Acast qui est représenté ce soir par Yann Thébault, on les trouve également. Est-ce que ça veut dire que ces contenus-là, ils y sont, mais ils ne devraient pas y être, Laurent Frisch?
Oui. La réponse simple, c'est oui. Je vais vous raconter Google comment ça s'est passé. Ils ont lancé leur application de podcast l'été dernier, et sans prévenir aucun éditeur, ont aspiré tous les podcasts existants sur Internet. On leur a dit qu'on n'était pas contents. Ils nous ont répondu, on comprend, mais on peut rien faire. Alors nous, on a fait quelque chose et on a retiré tous nos podcasts de Google. Mais vous, Hervé, vous les avez retrouvés. Parce que imaginez-vous qu'il y a des gens qui les piratent. Comme ça existait pour la musique ou pour la vidéo, on a des gens tellement passionnés par le grain à moudre qu'ils vont jusqu'à pirater Hervé Gardette et le remettre en ligne sur Google. C'est exactement ce qui se passe en ce moment et qui fait que vous pouvez vous écouter sur cette plateforme-là.
Thierry Vaugiac.
Oui, ce dont on parle, à mon avis, c'est pas tout à fait du podcast. Ce dont on parle là, c'est du replay radio. C'est-à-dire la radio, c'est-à-dire passer ces programmes.
Expliquez-nous la différence.
Ben, le replay radio, c'est pouvoir, comme pour la télévision, c'est réécouter un programme qu'on a loupé. Un podcast ou la création d'un podcast, c'est ce qu'on appelle le podcast natif, se fait en dehors du flux de la radio elle-même. C'est-à-dire c'est une véritable création pour le coup. Là, on est dans un replay radio et c'est la consommation maximum aujourd'hui, c'est la consommation principale.
Vous êtes d'accord avec cette différence-là, Karine Fillot?
Nous, on fait pas la différence parce que la fin, c'est du contenu audio et pour les auditeurs, il n'y a pas de différence en fait. Parce qu'il y a eu cette révolution des usages, on les met dans des cases, dans d'autres cases en fait. Après, effectivement, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser un petit peu ces mots pour essayer de différencier ces deux écosystèmes parce que tous ceux qui sont des créateurs aujourd'hui et qui se lancent sans radio, parfois, ils viennent taper à la porte des radios. Mais effectivement, la problématique d'une radio, c'est d'avoir que 24 heures dans une journée dans sa grille. Donc, ils se lancent, ils s'autoproduisent. Ils essaient aujourd'hui, c'est tout le sujet d'essayer de créer leur écosystème de diffusion, mais aussi leur monétisation. Effectivement, on les différencie, mais nous, dans la manière en tout cas dont on agrège et dont on fait de la curation sur Elson, on essaie justement d'essayer de voir quelles sont en fait les attentes des publics, à la fois des publics potentiellement de Radio France qui vont s'intéresser à des sujets qui ne seront pas représentés dans l'écosystème des émissions de Radio France, parfois dans des sujets de niche et spécifiques. C'est ce qui fait l'ADN du podcast natif en fait. C'est cette possibilité pour n'importe qui d'adresser tout de suite un contenu qui lui est propre sur un sujet parfois d'expertise. Et donc, en même temps, on va avoir parfois des gens qui vont découvrir le podcast à travers tous ces nouveaux acteurs qui émergent. Vous allez aujourd'hui sur Apple Podcast ou encore, le volet podcast de iTunes. Il y a une grande différence par rapport à il y a un an. On avait en avant toute l'offre de Radio France et des radios généralistes comme RTL, comme Europe 1 qui étaient représentées. Aujourd'hui, vous arrivez dessus. La home page, elle est constituée de tous ces podcasts natifs, effectivement. Après, on essaie de les classifier, on essaie de les recommander de la même manière.
Yann Thébault.
En fait, de manière très simple, sous le nom podcast, on distingue à la fois donc les podcasts replay, ceux qui sont diffusés en radio, et puis les podcasts natifs, pour faire simple, qui sont produits donc format audio, pas nécessairement destinés à être diffusés en radio.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, alors justement, sur Acast ? C'est-à-dire, il faut expliquer un petit peu d'ailleurs ce que c'est qu'Acast. C'est quoi ? C'est une plateforme de podcast ? Alors, ça suffit à la définir ou c'est un peu plus compliqué que ça ?
C'est un peu plus complexe que ça. En fait, Acast est une solution qui permet aux podcasteurs de répondre à tous les besoins qu'il va rencontrer de manière à ce qu'ils puissent se concentrer sur l'écriture et la production. On est là pour accompagner les podcasteurs et aider à faire émerger ce format sur le marché. Donc on propose des solutions d'hébergement, de distribution, d'accompagnement promotionnel et marketing. On a effectivement une application d'écoute de podcast qui nous permet de récupérer de la first party data, ce qu'on appelle.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire des données utilisateurs qui nous sont données via notre application d'écoute ou via un player audio qui sont plus pointues que ce qu'on peut récupérer sur d'autres plateformes d'écoute. Et puis également une brique commerciale avec la monétisation des podcasts.
Alors, pardon de ramener toujours à du grain à moudre, hein, mais c'est vrai que j'ai fait le test toujours avec la même émission, et tant qu'à faire le test avec une émission, autant le faire avec celle-ci. Acast, là aussi, on trouve les tout derniers épisodes du grain à moudre. Alors, je veux pas vous fâcher, mais peut-être il y a aucune raison d'ailleurs de le faire, Yann Thébault et Laurent Frisch. Mais s'agissant d'Acast, est-ce que là, c'est normal qu'on puisse trouver ces contenus? Et si oui, pour quelles raisons on les trouverait là et pas ailleurs? Parce que il y a des accords qui sont passés. Comment ça se passe?
J'ai pas regardé Acast. Excusez-moi, Yann. Il me semble que vous n'êtes pas lancé totalement officiellement en France.
Si, ça y est, on est lancé.
Ah pardon, alors autant pour moi, vous êtes lancé.
Alors vous allez recevoir peut-être une petite lettre.
Donc on va regarder ça plus en détail.
Mais imaginons que vous regardiez ça un petit peu plus en détail, que vous disiez, tiens, là, il y a des contenus de Radio France qui ne devraient pas y être. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, au-delà de demander l'interdiction, parce que moi, comme utilisateur de podcast, moi, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir me balader d'une plateforme à une autre et de trouver un maximum de contenus, y compris les contenus de Radio France, Laurent Frisch.
Mais vous savez, ce qui m'intéresserait, moi, en tant que lecteur de la presse, c'est d'avoir une application qui me donne en lecture toute la presse. Avec des articles de tous les journaux. Apple News, d'ailleurs, essaie de faire ça aux États-Unis, et c'est très compliqué avec les éditeurs de presse. Ça m'intéresserait, moi qui regarde beaucoup de vidéos, d'avoir une plateforme sur laquelle je peux retrouver les vidéos de toutes les chaînes de télé, mais aussi de Netflix. Pourtant, je ne retrouve ni l'une ni l'autre, parce qu'il y a des modèles économiques associés à la presse, à l'écriture d'articles, au journalisme qui sous-tend cette écriture d'articles. Il y a des modèles économiques associés à la production vidéo, qui font qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plateformes. Il y a le modèle de YouTube, qui est un modèle d'hébergement. Les gens peuvent aller publier leurs vidéos et libre à chaque éditeur de choisir ce qu'il y diffuse. Il y en a d'autres, Dailymotion, le français notamment. Et il y a des plateformes qui fonctionnent très différemment, qui acquièrent des programmes vidéo, audiovisuels, des séries, des films, du sport, comme celles qu'on a évoquées tout à l'heure, Netflix, que vous évoquiez vous-même, les OCS, et puis les plateformes des chaînes de télé. Vous avez différentes offres. Et alors, avant, vous appuyez sur votre téléviseur de TF1 à France 2, à France 3, à Canal, à France 5, à Arte, et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous appelez d'une application à l'autre. Vous appelez de Netflix à OCS, à France.tv, et ainsi de suite. Ben, je pense que l'avenir de l'audio sur les plateformes numériques ressemblera à ça.
Sauf peut-être à monétiser ces contenus. Allez, on va faire une négociation, comme si personne ne nous écoutait. Yann Thébault, donc Acast, vous seriez prêt à débourser combien pour avoir le droit, sur Acast, de proposer tout ou partie des contenus qui sont produits par Radio France? En tout cas, est-ce que c'est comme ça que ça pourrait se passer?
C'est pas comme ça qu'on envisage les choses.
Vous les envisagez comment, vous?
Aujourd'hui, les podcasts sont accessibles gratuitement. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir proposer la possibilité d'écouter la majorité des contenus sur chaque environnement. Après, je peux comprendre que cette hyper-distribution ait ses limites, et ce sera du cas par cas qu'on discutera ensemble avec Laurent.
Mais pour vous, ça peut être quoi l'intérêt pour Radio France? Je dis Radio France, hein, mais ça peut être RTL, ça peut être Europe 1, d'autres groupes de radio, c'est-à-dire qui produisent du contenu, et puis aussi, bien entendu, des sociétés qui sont montées, qui produisent des podcasts natifs. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Radio France, hein. Pas que j'oublie d'ailleurs tout à l'heure de citer les podcasts natifs de France Culture. Mais c'est quoi l'intérêt pour ces sociétés-là d'être présentes gratuitement sur une plateforme comme Acast? C'est quoi? C'est la visibilité?
La visibilité, l'audience et... bien évidemment, le fait que le nom soit connu et qu'on en parle, tout simplement.
Karine Fillot.
Des nouveaux publics, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, quand on parle de cette distribution, c'est que les règles du jeu depuis 15 ans, c'est celle d'un format technique qui s'appelle le flux RSS. Donc, sur lequel, en fait, c'est un format d'agrégation qui est entre guillemets, un format ouvert. Jusqu'à présent, les règles du jeu, c'était...
C'est-à-dire, c'est un flux et n'importe adresse, qui peut aller se servir dedans, c'est
voilà,
ça?
C'est-à-dire que c'est un fichier sur lequel il y a une adresse, comme une adresse web, mais c'est une adresse URL, sur lequel ensuite, c'est une pile de sons. Donc, quand on a, par exemple, le grain à moudre, on va voir le dernier épisode, l'avant-dernier, et ainsi de suite, jusqu'à une durée qui peut être des 10 dernières émissions aux 300 dernières, que va fixer généralement l'éditeur quand il fabrique son flux RSS. Donc, jusqu'à présent, on était, en fait, dans ce modèle-là. Celui qui a fait quand même le marché du podcast, en tout cas l'audience du podcast, il faut quand même dire, c'est quand même justement iTunes et Apple. Et si aujourd'hui on coupait les flux RSS, notamment de Radio France, forcément il y aurait une perte d'audience qui se fait déjà depuis 15 ans, qui est absolument phénoménale. Donc les règles du jeu, c'était celle-là. Maintenant, si les règles du jeu changent, il faut effectivement qu'elles soient en fait clairement explicitées aux uns et aux autres. Parce que là, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il va y avoir du coup des accords au gré à gré, sans aucune transparence de la part du service public? Donc, ou pas, quelles vont être ces nouvelles règles? Effectivement, aujourd'hui, si Radio France voulait diffuser sur sa propre app, elle le fait sans avoir besoin de flux RSS, avec une API, etc. Donc, moi, j'aimerais bien, en fait, du coup, que ces règles-là, bah, elles arrivent, effectivement, s'il y a une politique, du coup, de maîtrise de ces contenus de services publics, bah, que ce soit posé, que ce soit un peu plus transparent.
Thierry Vaugiac, alors, vous qui observez, justement, tout ça de l'extérieur, hein, je rappelle, vous êtes journaliste à CB News, c'est vraiment un des gros enjeux du moment, ça?
Absolument. Justement, l'échange Radio France à Cast montre à quel point les médias ont appris et que, par exemple, la musique s'est fait spolier, la presse, on en sait quelque chose chez CB News, s'est fait un peu spolier, enfin spolier même. Et aujourd'hui, la radio n'a pas envie de vivre la même chose et qu'elle prépare le terrain, qu'elle met tout de suite des jalons et ça veut dire qu'elle a appris. Elle a vu ce qui s'est passé pour d'autres médias. Elle a vu que ça a été parfois la catastrophe, hein, et elle n'a pas envie de vivre la même chose. Donc il y a un rapport de force qui se crée forcément et qui est en train de se créer dans un marché où il y a pléthore d'intervenants, où il faut montrer ses muscles. D'autant quand on s'appelle Radio France, où on est quand même largement téléchargé, où on est parmi les tout premiers.
Ça, il faut dire que c'est pas, pardon, une spécificité de Radio France, hein. Quand une plateforme qui s'appelle Luminary s'est lancée aux États-Unis, de nombreux acteurs, radio et podcasteurs indépendants, ont demandé à être retirés de la plateforme. La BBC elle-même, en Grande-Bretagne, a demandé à être retirée d'un certain nombre de plateformes. Et c'est un phénomène qu'on observe un peu partout dans le monde. C'est exactement ça. Quand Karine Fillot disait le marché du podcast, non, le marché, il n'existe pas. Le marché, il existe quand il y a quelque chose se structure. Et peut-être qu'un marché est en train d'arriver et est en train de se structurer. Il existe un marché de la vidéo, il existe un marché de la presse, il n'existe pas encore un marché du podcast.
Non, c'est un marché souhaitable.
Il est peut-être en train d'advenir. Et au moment où il advient, il est normal que les rapports de force entre les acteurs évoluent.
Sauf qu'il arrive beaucoup plus tôt qu'il n'a pu arriver jusqu'à présent dans d'autres secteurs.
Le rapport de force, je ne sais pas, il est arrivé très tôt sur la musique. Je me souviens que Deezer, avant de s'appeler Deezer, s'appelait blogmusic.net, était attaqué par toutes les sociétés d'auteurs et de producteurs parce qu'ils pirataient de la musique. Et c'est en normalisant la question des droits qu'ils sont devenus Deezer et qu'ils sont devenus l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent en faisant du podcast ou en proposant des agrégations de podcasts, Thierry Vaugiac?
Grande question. C'est la grande question aujourd'hui. Ça dépend du modèle de la plateforme elle-même et surtout est-ce que les gens vont suivre? C'est le public qui tranchera, comme toujours. Pour Acast, le problème c'est d'avoir des gens qui viennent télécharger. Pour Magellan, ce sera la même chose. Pour voilà.
C'est quoi le modèle, Yann Thébault, pour Acast? C'est la publicité, c'est les abonnements,
la monétisation. Donc c'est vrai qu'on a une application d'écoute, comme on l'a dit, mais c'est pas pour nous l'élément essentiel de notre stratégie, puisque l'objectif premier d'Acast est de fournir une solution technique d'hébergement et de distribution et de monétiser les contenus de nos partenaires. Donc notre objectif, c'est que les contenus, vous citiez par tout à l'heure la BBC, Financial Times, Guardian, Binge Audio, Mademoiselle, Louis Media, soient diffusés sur le plus grand nombre de devices, d'appareils, pour être écoutés. Et ensuite, nous allons les monétiser pour faire un partage de revenus avec les différents éditeurs.
Donc non seulement vous ne payez pas les producteurs, mais dans votre modèle idéal, si je comprends bien Yann Thébault, l'idée c'est que ceux qui produisent ces contenus payent Acast pour un service rendu, c'est ça ?
En fait, c'est nous qui reversons aux producteurs la grande partie des revenus générés par la publicité, qui finance en partie la production des contenus. Donc nous sommes là pour les accompagner, les aider et faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils puissent vivre de la production de leur contenu.
Mais cette publicité, pour qu'on comprenne bien, c'est une publicité qu'on peut entendre, qu'on peut voir.
On est sur l'audio,
comment ça se passe ?
Qu'on peut entendre, on place des publicités en début et en fin de podcast qui vont permettre justement de générer des revenus qui seront partagés à la faveur du producteur, de l'éditeur du podcast.
Est-ce que c'est un modèle très différent de celui d'Elson, Karine Fillot ?
Oui, complètement. Nous, on a fait le choix, en tout cas dans le modèle souhaitable, parce qu'il n'est pas encore en place, mais de justement de ne pas monétiser par la publicité.
Pour quelle raison ?
Parce qu'en fait, dans l'approche qu'on a, on a une approche, on va dire, de curation. Donc la curation, c'est quoi ? C'est justement pas créer l'annuaire le plus important, mais plutôt sélectif, de faire un choix sur les contenus qu'on agrège. Ensuite, de rééditorialiser les contenus et de les partager. C'est ça la curation. Et donc, nous, on fait de la micro-curation, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, non pas justement, par exemple, au grain à moudre, le podcast, mais peut-être l'émission de ce soir ou une autre. Et c'est celle-là, en fait, dont on fait la recommandation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue sur le pourquoi d'une écoute, est-ce que c'est le sujet, qu'est-ce qui va nécessiter en fait qu'on a envie et qu'on va rebondir surtout d'un sujet à un autre, d'un podcast à un autre, d'un épisode à un autre.
Et les gens vont payer pour ça.
Et on pense que les gens
vont payer
pour
ça. En tout cas, c'est le
pari, c'est de dire que parce qu'on fait, en fait, cet aspect, c'est un aspect média, c'est une approche média, parce qu'on fait ce travail en fait éditorial tous les jours dans nos recommandations, nos newsletters, et en fait, on pense que les gens vont payer pour ça, mais pour deux choses. Pour d'abord, justement cette curation qui leur permet en fait de se laisser porter par nos choix éditoriaux, mais aussi parce que on a choisi un modèle d'abonnement et un modèle qu'on veut équitable, et parce qu'en fait nous on classifie les contenus mais on classifie aussi les acteurs, c'est-à-dire que équitable ça veut dire que quand on est Radio France et que le contenu est dans le cadre du service public et qu'il est en hertzien, il va avoir une certaine valorisation, quand il est en natif il va potentiellement en avoir une autre. La même chose pour RTL qui sont des radios généralistes qui ont quand même l'accès à la FM, qui leur donne quand même une puissance de force qui est importante. Et puis les studios de podcast qui, eux, en fait, vont monétiser leurs podcasts, soit en production propre, soit pour des marques, vont avoir un autre barème. Et le podcasteur, le solo podcasteur, qui se lance et qui a comme ressource uniquement son temps et son énergie, lui va être à un maximum de rémunération. Et on va appliquer, en fait, le même taux de barème sur potentiellement le type de production. Donc, essayer d'identifier une production complètement élaborée, avec de la fiction, du documentaire, à une production plus simple. En tout cas, on essaie de travailler dans ce sens-là.
Laurent Friche.
Donc ça veut dire que c'est votre plateforme qui décide combien chacun doit gagner ou mérite de gagner ?
Non, c'est justement dans le cadre, en fait, on a commencé les premiers échanges avec les plus petits, avec plutôt les petits producteurs. Mais justement, l'idée, en fait, c'est de trouver, et on essaie aussi de se rapprocher d'autres plateformes, potentiellement, parce qu'on voit bien qu'on va tous être amenés à faire, finalement, du revenu partagé. Donc on va essayer de trouver un ratio, en fait, entre les uns et les autres. Mais évidemment que ce sera dans l'objet d'échange, quoi. Mais il faut aussi que du coup, forcément, les éditeurs qu'on héberge, qu'on diffuse plutôt, soient aussi d'accord avec cette philosophie-là. Parce qu'en fait, le but, si on rassemble des podcasts du service public, de la radio privée, des podcasteurs, c'est qu'en fait, on essaie de créer un système de curation qui est plutôt vertueux entre différents types de contenu, en fait. Tout ça pour des auditeurs, in fine.
Alors, en Friche, les podcasts à Radio France, ça représente combien de téléchargements à peu près par mois ?
C'est quasiment 3 millions d'écoutes par jour, ce qui fait pas loin de 90 millions par mois.
Est-ce que ça rapporte de l'argent à Radio France ?
Oui, un peu. Assez pour nous financer les coûts techniques de diffusion de ces podcasts. Et on espère à l'avenir un peu plus pour nous permettre de financer de la création également.
Mais ça rapporte comment ? C'est-à-dire ce sont des contenus qui sont vendus, c'est de la publicité ?
Aujourd'hui, on met de la publicité sur un certain nombre de podcasts, pas tous, et on met assez peu de publicité, mais on en met quand même. Et ça nous rapporte de quoi faire vivre notre plateforme technique de diffusion des podcasts.
Parce que moi, j'avais plutôt le souvenir, en tout cas, de quelque chose qui, plus ça fonctionnait, plus ça coûtait cher en bande passante. Est-ce qu'on en met toujours là aujourd'hui ?
Oui.
C'est-à-dire plus les gens téléchargent vos contenus, plus vous devez payer pour avoir un tuyau large, c'est ça ?
Entre le broadcast, la FM par exemple pour la radio ou la TNT pour la télé, ou peu importe le nombre d'auditeurs que vous aurez, vous payez les mêmes coûts de diffusion quand vous êtes le diffuseur, l'éditeur, alors que sur Internet, quand vous avez deux fois plus de personnes qui vous écoutent, vous avez deux fois plus de coûts de bande passante, comme vous dites, en effet.
Alors ça, on voit bien à quel point, justement, pour trouver un modèle économique qui soit pérenne, ça complique encore plus les choses, Thierry Voliac.
Absolument. Et pour rebondir sur la pub audio, sur les chiffres SRI, en 2018, c'était de moins de 5 millions d'euros. Donc c'est quand même assez relatif. C'est les chiffres de 2018 hein, que j'ai sous les yeux. Donc le marché, pour l'instant, publicitaire est quand même pas énorme. Donc le marché des abonnements sera compliqué. En 2018, il y avait 4 millions de personnes qui écoutaient des podcasts en 2018, donc il y en a probablement bien plus aujourd'hui. Mais il y a vraiment quelque chose à trouver et c'est pas tout de suite, il y a un petit peu de temps devant nous quand même.
C'est un marché naissant.
Absolument.
Et il y a peut-être aussi le fait que c'est une offre qui peut être considérée comme une offre complémentaire. Il y a quand même beaucoup de journaux, par exemple de presse écrite, qui se lancent dans la production de podcasts. Aujourd'hui, il y a Les Échos, il y a Le Parisien qui en font. Ça veut dire aussi quoi? Que ça permet de valoriser des contenus autrement, Thierry Voliac? C'est-à-dire, est-ce que aussi, avec les clients ou les partenaires qui sont les vôtres, vous sentez que le podcast ne sert pas seulement à gagner de l'argent, mais peut-être aussi à être présent et à être visible sans qu'on en tire directement, en tout cas, ou rapidement des bénéfices. Yann Thébault, c'est à vous que je m'adressais, pardonnez-moi et je regarde.
C'est un moyen de générer des revenus additionnels. Si on prend l'exemple du Parisien, de modifier un petit peu aussi l'image du média, d'aller parfois plus en profondeur sur certains sujets. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que ce format s'impose. Et puis aujourd'hui, on a aussi une saturation de l'information visuelle. Le podcast se prête tout à fait à de nouvelles formes de découverte. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien.
Thierry Voliac.
Il n'empêche quand même que ces médias-là, pour prendre l'exemple du Parisien et de Code Source, a besoin de générer des revenus.
Alors Code Source, il faut dire, voilà, c'est ce programme qui est proposé par le Parisien.
Absolument, qui est un programme quotidien, qui est proposé dès 18h, je crois. Et à terme, il y a une équipe de 4 personnes, je crois, qui est totalement dédiée à ce podcast. Il y a un moment ou un autre, il faudra que rentrer, pour parler un peu trivialement, rentrer dans ses frais. Et quand moi j'ai eu l'occasion de les interroger, ils étaient pas contre du tout le fait de pouvoir faire entrer un partenaire avec eux sur le sujet, parce que c'est quoi qu'il en soit un investissement. Et la presse, même si le groupe Le Parisien, même si le groupe Les Échos Le Parisien est une filiale de LVMH, je suis pas certain que LVMH ait envie de mettre à chaque fois au pot.
Karine Fillot.
Il y a aussi une volonté de ces acteurs d'être présents sur l'audio, la presse écrite, la presse magazine. Il y a la promesse aussi de nouveaux usages, ceux des enceintes connectées notamment, de pas louper en fait ça. D'ailleurs, on voit ce qui est assez caractéristique, c'est que jusqu'à présent, les gens qui se lançaient dans du podcast étaient plutôt sur des types de programmes qui étaient de type magazine, donc ils se valorisent justement mieux sur les plateformes de podcast parce que le chemin est un petit peu long avant d'arriver. Si voilà, peut-être qu'on va réécouter finalement le grain à moudre de ce soir, on va peut-être l'écouter dans 6 mois aussi parce que c'est le sujet qui nous intéressera. Et en fait là, ces acteurs qui font finalement du show, du breaking news, le font aussi dans cette perspective d'arriver sur un terrain encore peu exploité dans le cadre du podcast natif, qui est créer en fait finalement une nouvelle forme de radio en étant présent par le biais du streaming, qui est beaucoup plus immédiat que les applications de podcast, et par le biais aussi des enceintes connectées.
Laurent Friche.
Ça coûte à fabriquer des podcasts. La publicité n'a pas réussi à faire vivre la presse. La publicité n'a pas réussi à faire vivre le monde de la vidéo. La publicité, à mon avis, ne réussira pas à faire vivre l'univers des podcasts. En tout cas, elle ne sera pas suffisante. Peut-être que ce sera un complément de rémunération, mais elle ne sera pas suffisante. Moi, je vois que 3 modèles aujourd'hui existaient. Celui du payant, mais qui n'est pas encore avéré. J'espère qu'il va marcher parce que je pense que c'est pour des productions et ils en ont, on l'espère, pour leur argent. Le modèle du payant qui commence à marcher pour la presse et qui marche pour la vidéo. Il y a le modèle de la communication. Je produis des podcasts pour me faire connaître d'un certain public. Il faudrait interroger LVMH, Le Parisien, Les Échos. Probablement font-ils des podcasts aussi pour faire découvrir leur offre journalistique d'un public nouveau complémentaire dont ils espèrent qu'ils achèteront un jour Les Échos ou Le Parisien et peut-être même s'y abonneront. Et je dirais, un modèle que Karine Fillot a évoqué, c'est payer pour voir. Il y a une mode du podcast en ce moment, alors tout le monde se met à en faire, et probablement plein d'acteurs se mettent à en faire en se disant, si c'est le prochain truc qu'il faut pas louper, alors on y va, on en fait pour être sur les enceintes connectées, on en fait pour être sur Siri, OK Google, etc. On en fait pour être, parce que tout le monde parle des podcasts en ce moment, on sait pas ce que ça va nous rapporter, mais on préfère mettre un peu d'argent pour voir.
Et le modèle de Radio France, alors, c'est lequel, Laurent Friche?
On est un modèle de service. On est sur un modèle de service public, nous. Hein, nous, on produit suivant un cahier des charges, et au travers de 7 chaînes de radio, on produit des émissions de radio et on produit quelques podcasts, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dits natifs, c'est-à-dire des podcasts qui ne sont pas au début diffusés à la radio, peut-être le seront-ils un jour d'ailleurs, ne présageons pas de la suite, et c'est de maximiser la diffusion de cette offre de service public.
J'ai en cité quelques-uns d'ailleurs, s'agissant de France Culture, Super Fail de Guillaume Erner, l'anachronique culturelle de Mathilde Serrel, ou encore Les idées claires de Nicolas Martin. Vous produisez, vous, des contenus chez Yacast, ou vous tentez de les agréger? Et est-ce que ça fait partie des projets qui peuvent être les vôtres, que d'être aussi producteur de contenu?
Pas à date. Aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les podcasteurs de manière à ce qu'ils soient diffusés le plus largement possible. On ne produit absolument pas de contenu aujourd'hui.
Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous, Karine Fillot, d'avoir certains des contenus qui vont être produits sur Elson, de se retrouver, par exemple, sur la grande plateforme qui est en train de mettre en place Radio France?
Alors, j'ai pas bien. Nous, on produit pas de podcast.
Ah, vous produisez pas,
non,
vous. D'accord. Je pensais qu'il y avait la volonté, en tout cas, d'en produire.
Non, il y a pas la volonté d'en produire. En fait, il y a la volonté d'accompagner des podcasteurs pour qu'ils en produisent, puisque du coup, dans le principe, en fait, c'est que justement, ils aient un endroit sur lequel ils peuvent dire, ici, sur Elson, si vous m'écoutez ici, en fait, vous allez contribuer, parce que pour parler des modèles économiques, il y a quand même quelques petits modèles qui fonctionnent à l'échelle des petits podcasteurs. Il y a le crowdfunding, régulier, donc avec des plateformes sur lesquelles vous pouvez dire à vos auditeurs, venez et payez, un peu comme pour la redevance publique qui est obligatoire, mais là il y a ce modèle là de contribution en fait volontaire de la part des auditeurs. Donc c'est un modèle finalement, nous, qu'on a intégré à l'intérieur, mais parce que le but, si un jour on doit faire de la création de contenu, c'est qu'en fait elle sera coproduite avec ces acteurs là elle sera pas directement produite nous en termes de ligne éditoriale, on sépare les choses.
Laurent Friche, l'ambition de Radio France, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est d'avoir sa propre plateforme avec uniquement des contenus de Radio France, ou bien dans l'idée de créer, alors je reviens toujours à cette référence, un Netflix de l'audio, qui ferait que Radio France proposerait ses contenus, mais proposerait aussi d'autres contenus pour avoir une offre encore plus pléthorique qu'elle ne l'est aujourd'hui?
Alors, je reprends pas mon compte Netflix de l'audio, qui sous-tend pas mal de choses, notamment du côté de l'abonnement. Et nous, notre plateforme a vocation à rester gratuite.
Ça permettra à Radio France de gagner beaucoup d'argent. Et vu les économies auxquelles on est confronté, ça pourrait être intéressant.
On va essayer de gagner de l'argent d'autres façons, qu'en faisant payer les podcasts qui sont aujourd'hui gratuits, ou l'écoute d'ailleurs de nos chaînes comme France Culture.
En tout cas, accueillir d'autres contenus.
Pourquoi pas.
Faire des coopérations, par exemple, je ne sais pas moi, avec d'autres groupes radiophoniques.
C'est dans le champ des possibles d'accueillir des contenus d'autres producteurs. Pourquoi pas.
Et des coproductions?
Des coproductions, pourquoi pas aussi.
J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se passer à la sortie du studio, en tout cas qui vont être tentées. Thierry Vaugiac, en tout cas, on voit que le marché est assez pléthorique. Je faisais la comparaison tout à l'heure avec ce qui se passe dans le cadre des trottinettes électriques. Il y a une quinzaine, je crois, de sociétés qui sont à Paris. Ce qui est à peu près sûr, c'est que forcément, à un moment donné, ça va se réduire, tout ça.
Absolument. On est vraiment à l'émergence de ce marché. Si je prenais l'analogie d'une maison, on construit sa maison sur des fondations. Là, j'ai l'impression qu'on est encore dans la construction des fondations. D'un marché qui se structure avec beaucoup d'intervenants, et il y en a qui seront plus gros que d'autres, qui vont grandir. Il y en a déjà qui sont énormes. Acast est énorme, et il y a Luminary qui a une force de frappe de 100 millions de dollars et qui ne sait pas encore quoi en faire, et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Donc forcément, au bout d'un moment, les plus petits...
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre.
Merci.
À Thierry Faugiac, donc je rappelle CB News, vous en êtes le rédacteur en chef adjoint. Yann Thébault, tout nouveau directeur général, enfin ça fait quelques semaines maintenant, mais d'Acast, vous êtes passé auparavant par Spotify France. Laurent Friche, vous êtes le directeur du numérique et des contenus, c'est ça, à Radio France? Ah non, alors on n'a plus votre micro ouvert.
Oui, je disais que je vais rentrer fêter mon anniversaire avec ma famille maintenant.
Ben voilà, bon anniversaire, Laurent Friche et Karine Fillot, Elson et tac tac tac.
les plus petits mais qui creusent leur petit sillon.
Voilà, les liens sont sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Je remercie toute l'équipe du Grain, émission réalisée par Pierre Le Gras avec à la prise de son Nasser Moussaoui. Et on va encore être dans la musique et dans le son avec
absolument,
vous, Arnaud Laporte.
3 minutes,
la
une dispute musique pour fêter l'anniversaire de Laurent Frisch, évidemment. Vous prenez 10% sur les contrats qui vont être signés à la sortie. Hervé, vous m'en reversez une partie comme on en avait parlé avant l'émission.
Et comme on fait depuis toujours.
Absolument. Hein. Demain.
Les jeunes sont-ils bons pour le service? On va parler du service national, universel. Comment s'appelle-t-il déjà?
Vous avez du boulot d'ici demain.